L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Richard Aboif, le président de l'association Stolperstein 67, une association de citoyens qui œuvre pour la mémoire des personnes déportées en apposant un pavé d'achoppement, un pavé de mémoire en laiton scellé devant le dernier domicile connu de la personne assassinée en déportation. Alors aujourd'hui, des centaines de Stolperstein ont été posés dans toute la région, dans tout le département, et ça continue. Et pour nous en parler, je reçois Richard Aboif. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue dans ces studios. On ne vous reçoit pas souvent, mais vous êtes un membre très actif aujourd'hui du bureau de la radio. Je trouve que c'est important quand même de le dire. Alors, qu'est-ce qui a motivé, vous, votre engagement dans ce travail de mémoire?
Alors, il y a une motivation au départ qui est personnelle. J'ai appris tardivement qu'une partie de la famille de mon père a été déportée de Corfou et de Tunisie également. Et donc, c'est ce qui m'a amené à me questionner un petit peu sur la responsabilité, sur la mémoire. Et donc, à partir de ce moment-là, c'était Georges Bensoussin qui m'avait donné un certain nombre d'éléments sur les déportés de Corfou, de Tunis également. Et donc, par ce biais-là, je suis rentré dans cette quête de mémoire. J'ai organisé, élaboré un certain nombre de projets mémoriels au lycée Hort de Strasbourg, où je travaille depuis plusieurs décennies. Et le projet Stolperstein, je l'ai rejoint en 2018. Il y a eu un collectif de personnes à Strasbourg qui voulait lancer ce projet sur la capitale, sur Strasbourg, la capitale européenne. Et donc, on a échafaudé ce projet avec une dizaine de personnes. Et en 2019, le projet a été validé aussi bien par le consistoire israélien du Bas-Rhin, et la mairie tout de suite a donné son accord le lendemain de la validation par le consistoire israélien du Bas-Rhin du projet Stolperstein pour le Bas-Rhin, donc pour le 67, pour le département.
Aujourd'hui, il y a combien de pavés à Strasbourg et après plus largement sur le département 67?
Alors sur Strasbourg, nous avons à l'heure actuelle environ une centaine de Stolperstein qui ont été posés dans différents quartiers, dans tous les quartiers finalement de la ville. Près de 150 également dans les villages du 67 du Bas-Rhin, donc ce qui fait 250 Stolperstein qui ont été posés. Mais le projet va se déployer. Se déploie de manière régulière, puisqu'on a, l'année qui vient, on a 38 Stolperstein qui seront posés et une vingtaine de cérémonies qui sont prévues dans les villages d'Altwiller, Bischheim, Dupigheim, Haguenau, Lavancenau, Schittigam, Strasbourg, Vasselon, Wörth, et on a donc eu la confirmation également pour Bischwiller avant-hier. Donc voilà, ça fait un certain nombre de projets qui sont en cours d'élaboration. Les dossiers sont partis à la fondation de Berlin il y a 2 semaines déjà.
Donc c'est Berlin et encore, c'est la fondation qui, elle, valide cette demande.
C'est Berlin qui donne son autorisation. Mais en général, quand nos historiens préparent ces dossiers, ils sont validés dans la plupart des cas. Donc il n'y a jamais eu de problème à ce niveau-là. Le seul problème qu'il y a eu, qui a été réglé, c'est qu'on a posé des Stolperstein pour des malgré nous l'année dernière à la Robertsau. On nous a demandé est-ce qu'ils sont rentrés en résistance, et donc on a confirmé effectivement leur entrée en résistance, c'était les frères Knecht, et donc le projet a été validé à ce niveau-là aussi. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu une idée de ce qui a été fait sur le département. Mais le projet strasbourgeois, le projet français n'est pas très très important sur la France entière. Il y a environ un millier de Stolperstein. La France est rentrée tardivement dans le projet il y a à peine une dizaine d'années, mais le projet Stolperstein, c'est une émanation de l'artiste Günther Demling, qui est très connu et qui est d'une génération qui a connu énormément d'artistes qui sont engagés pour la mémoire, comme Sigmar Polke, comme Baselich, comme Richter, comme également Hansen Kiefer, qui est le plus connu peut-être. Et donc ces artistes-là ont déployé un certain nombre de projets, chacun à sa manière, et donc le projet de Günther Demling consistait à créer une sorte de contre-monument et à poser des petits pavés de laiton avec des inscriptions qui donnaient des indications sur les personnes qui avaient été déportées. Donc, comme vous l'avez souligné, ces pavés sont scellés donc devant le dernier domicile connu de ces personnes qui ont été déportées, qui sont mortes en déportation, qui ont été fusillées, parce que le projet ne se limite pas uniquement aux déportés, mais également aux résistants, qui ont été fusillés également. Donc c'est un projet qui est assez large. Il concerne énormément de cas de personnes qui ont été donc victimes du nazisme. Donc voilà.
Donc pas uniquement les juifs, également les homosexuels, les tziganes, les personnes en situation de handicap, plus largement, vous le disiez, les résistants. Est-ce qu'à terme, ce travail peut être exhaustif ? Est-ce que vous rêveriez, vous, d'avoir devant chaque domicile, dernier domicile connu des personnes déportées ou assassinées par les nazis, un pavé en laiton ? Est-ce que pour vous, ça pourrait être ça, un point culminant de ce travail-là.
Alors la question a été posée à Günther Demling. Il a calculé qu'il fallait près d'un siècle peut-être pour poser l'ensemble des pavés et pour honorer la mémoire de tous les déportés. Il y en a eu près de 10 millions de victimes en dehors du conflit, en dehors de la guerre. Près de 10 millions de personnes qui ont été déportées ou qui sont mortes pour des raisons de déportation. Pas seulement des juifs, donc, comme vous l'avez souligné, des Sinti, des Roms, des homosexuels, des opposants. Donc voilà, c'est un projet qui symboliquement, l'artiste a voulu marquer quelque chose de très important, mais il sait pertinemment que c'est impossible de marquer la mémoire de toutes ces personnes qui ont été les victimes du nazisme.
Et puis ça demande un travail de recherche historique qui est absolument énorme.
En
fait, aujourd'hui, vous êtes entouré d'historiens. Je vois que Nicolas Logel fait partie du bureau de cette association. C'est un travail qui est fourni quand effectivement un Stolperstein va être posé, mais à la base, c'est qui fait la demande d'un pavé de mémoire ?
Alors, les demandes émanent de nombreuses personnes ou associations. On a eu des demandes qui ont émané de mairies, d'écoles.
Beaucoup de travail scolaire autour.
Beaucoup de travail scolaire, de lycées, des mairies, donc, comme je l'ai souligné. Et évidemment, des descendants ou des proches des disparus qui font les demandes. Alors, une fois que la demande est posée, on essaie de réunir les éléments, les documents dont ils sont à disposition, donc, qu'ils ont pu récupérer, attestant donc, la disparition ou la déportation de leurs proches. On transmet, nous, ces documents à nos historiens. On a actuellement 6 historiens qui travaillent avec nous dans l'association. Ces historiens vont constituer des éléments, des dossiers de recherche, pour confirmer effectivement la nature de la déportation, de la disparition de ces personnes. Une fois que les dossiers sont constitués, on les valide en réunion d'association, et puis ensuite on les transmet à Berlin, qui va à nouveau les vérifier. Et ensuite, donc, une fois que c'est validé, les Stolperstein vont être fabriqués et vont nous être renvoyés par la Fondation berlinoise. Une fois qu'on les reçoit, on contacte les mairies et les proches pour organiser les cérémonies, les services techniques de la ville, bien entendu. Et donc, on organise ces cérémonies. C'est assez lourd, quand même, des fois. Mais bon, on y arrive. Et donc, pour l'année 2026, on a une vingtaine de cérémonies et 38 pavés, il me semble, qui sont déjà en commande à Berlin.
Qui finance ces pavés et ces cérémonies ?
Alors, on a des subventions qui nous parviennent de la mairie, de la collectivité européenne d'Alsace et de la région. Et en général, les proches payent la somme du pavé qui est de 132 euros. C'est pas grand-chose. Mais on arrive à équilibrer donc les différents projets et même donc à offrir une gratification chaque année à nos historiens qui sont de jeunes historiens, doctorants ou qui sont en maîtrise à l'université. On arrive à équilibrer très correctement les projets que l'on mène durant l'année.
Et vous impliquez beaucoup aujourd'hui les scolaires lors de ce travail de préparation à la pose d'un Stolperstein. C'est une façon également de faire un travail de mémoire avec cette jeunesse qui en a grandement besoin.
Tout à fait. Pratiquement lors de chaque pause et en amont des pauses, bien entendu, on contacte les collèges ou les lycées du district ou du secteur ou du quartier. Et dans les villages, c'est également le cas. Et des projets pédagogiques sont montés avec les enseignants et avec nos historiens qui se déplacent également sur des sites et qui rencontrent à la fois les enseignants, les équipes pédagogiques pour leur présenter le projet. Et très souvent, la plupart du temps, c'était un projet qui, euh, qui enrôle un certain nombre de lycéens, de collégiens qui travaillent sur le dossier, sur la mémoire des personnes qu'on va honorer. Et quand il y a donc également des cérémonies, très souvent les jeunes interviennent autour de la mémoire de ces personnes disparues.
Et souvent des descendants également de ces disparus, quand il y en a.
Quand il y en a, effectivement, interviennent. Et c'est souvent très émouvant. Alors, on a eu des cérémonies où des gens sont arrivés des quatre coins du monde, hein, d'Australie, des États-Unis, de toute l'Europe, d'Israël, d'un peu partout. Donc, on a eu des réunions assez... C'était très, très émouvant. Des retrouvailles, d'ailleurs, entre personnes qui ne s'étaient jamais vues, des descendants de ces personnes disparues.
Il y a également, vous menez également des opérations de polissage. Alors c'est très symbolique, hein, c'est vraiment nettoyer le laiton, le faire briller, mais c'est surtout rappeler la mémoire de ces personnes disparues.
Tout à fait. Chaque année, un petit peu partout en Europe, a lieu autour de la nuit de cristal, des polissages de ces Stolperstein avec des jeunes. À Strasbourg, on l'a organisé dimanche dernier, donc avec des jeunes éclaireurs israélites de Strasbourg, avec quelques-uns de nos historiens et avec quelques étudiants qui se sont également joints. On a pu polir les trois quarts des Stolperstein de Strasbourg, et des initiatives identiques ont pu se dérouler également dans quelques villages où on a posé des Stolperstein. Mais le polissage des Stolperstein est extrêmement important en Allemagne. Il y a eu des milliers d'initiatives de ce genre-là autour de polissage avec des collectifs d'enseignants, avec des jeunes lycéens, collégiens, donc d'un peu partout dans toutes les villes et les villages d'Allemagne, et qui ont contribué à ce polissage, donc autour évidemment de la nuit de cristal, le mois de novembre, début novembre.
Ça s'inscrit aujourd'hui dans une action mémorielle, ce polissage. On pourrait envisager, dans une ville comme Strasbourg, que tous les citoyens descendent pour honorer, évidemment, la mémoire de ces disparus-là.
Alors, ça se fait facilement en Allemagne. Très souvent, j'ai assisté moi-même aussi bien à Kehl que dans d'autres villages, Fribourg ou dans d'autres, à Bulle également, j'ai pu assister, où effectivement des gens se joignent aux jeunes qui vont polir les Stolperstein. À Strasbourg, on n'a pas engagé ce type de mobilisation, mais ça peut être effectivement fait dans les prochains temps. Notre action se concentre essentiellement sur des jeunes lycéens, des jeunes collégiens. Il me semble que c'est très important de sensibiliser ces jeunes pour les générations futures, pour les temps qui viennent. Voilà.
Alors, vous avez un nouvel engagement aujourd'hui avec la Jewish Heritage Network, un projet intitulé événement Stolper, sensibiliser et renforcer la mémoire de l'Holocauste grâce au Stolperstein. De quelle façon vous intervenez auprès justement des jeunes pour les sensibiliser ?
Alors, cette implication dans le Jewish Heritage Network, c'est une émanation du Conseil d'Europe qui vise à promouvoir les activités autour de la mémoire de la culture juive en Europe, dans tous les pays d'Europe. Et donc, on a été sélectionné sur une quinzaine de projets pour effectivement participer à ce type de parcours mémoriel dans la région et essentiellement dans le Bas-Rhin. Effectivement, c'est un projet qui consiste à valoriser notre action sur le plan mémoriel et à impliquer davantage de jeunes et de lycéens, de collégiens sur des projets mémoriels que l'on mène. À ce titre-là, nous avons également eu un contact très intéressant avec l'inspection académique et le recteur d'académie pour promouvoir et pour essayer de déployer et développer cette sensibilisation au niveau des établissements strasbourgeois. Et donc, on a eu un accord très favorable pour ceci. Donc, on pourra intervenir dans pas mal de structures éducatives, collèges et lycées, pour essayer de diffuser un petit peu cette mémoire, essayer de la valoriser et d'impliquer davantage de jeunes pour qu'ils puissent être porteurs de cette mémoire pour demain, quoi.
Justement, la jeunesse, aujourd'hui, presque passeur de flambeaux. Vous accueillez d'ailleurs dans ce cadre-là deux jeunes étudiants qui viennent renforcer les membres de votre association Stolperstein 67. Ils sont en charge de quoi alors justement de travailler sur cette mémoire, d'accueillir peut-être des dossiers qui arrivent, voilà, de familles qui veulent honorer leurs disparus.
C'est tout à fait ça. Donc on les a sensibilisés. Ils sont venus donc par eux-mêmes. C'est notre notre collègue Audrey Kichelewski, que vous connaissez peut-être, qui a enseigné donc, à l'université à Strasbourg et qui était vice-présidente de l'association, qui est partie maintenant sur Paris. Elle a été mutée à l'INALCO. C'est elle qui nous a souvent trouvé des jeunes historiens, qui les a sensibilisés au projet Stolperstein. Et là, effectivement, on vient d'avoir de nouvelles recrues dans l'association, de jeunes historiens qui sont en maîtrise d'histoire et qui vont travailler sur différents dossiers. Donc, on leur communique les dossiers, ils effectuent les recherches archivistiques, ils travaillent sur les différents projets, ils contactent les familles et on va leur demander également d'intervenir au niveau des établissements pour sensibiliser les jeunes dans les différentes classes qui pourraient participer aux commémorations et aux célébrations, donc aux cérémonies.
On ne s'engage pas de la même façon dans une association comme Stolperstein 67, qui est un travail de mémoire qui peut être lourd aujourd'hui et nécessaire forcément, comme on s'engage dans une association, dans un service civique de paysagistes, etc. Il y a quand même aujourd'hui une sorte de conscience, de passage, de relais de cette mémoire, si douloureuse soit-elle.
Oui, écoutez, moi je suis étonné de voir que pas mal de jeunes essayent de nous rejoindre. On a eu, depuis 2019, donc date de la création de l'association, près d'une vingtaine de jeunes historiens qui ont travaillé à nos côtés, qui par la suite ont quitté Strasbourg, sont partis sur Paris, sur Lyon ou ailleurs. Mais chaque année, on a des jeunes historiens qui viennent nous voir pour essayer, pour même rentrer dans l'association et pour participer à ce travail de mémoire qu'ils trouvent extrêmement intéressant. Et puis, on est vraiment dans une association. Et puis, le projet en lui-même est un projet qui est véritablement très différent de tout ce qu'on a connu actuellement jusqu'à aujourd'hui en termes de mémoire. On a des monuments, on a la statuaire mémorielle, des projets très importants comme dans des musées, dans des espaces dédiés à la mémoire. Mais là on est véritablement dans une sorte de contre-monument. C'est des petits pavés. C'est une histoire individuelle. C'est vrai que l'histoire, la grande histoire, camoufle et occulte les parcours et les tragédies individuelles. Et très souvent, on nous le souligne. À travers ce travail de mémoire autour d'une personne ou d'une famille, la dimension de la Shoah, la dimension de la tragédie qui est arrivée pendant pendant la Seconde Guerre mondiale, prend une toute autre dimension. Et c'est ce qui intéresse énormément de gens, je trouve. C'est la grande histoire fait écran aux destinées individuelles et c'est un des facteurs qui arrive à sensibiliser, à toucher beaucoup de gens.
Est-ce que vous vous cognez, vous, parfois, au niveau personnel ou dans le cadre de votre association, à ces thèses de révisionnisme qui fleurissent ici et là, alors sur les réseaux, évidemment, beaucoup de complotistes, mais est-ce que vous, c'est quelque chose à quoi vous pouvez être confronté?
Alors, pour l'instant, non, on n'a pas eu de problème à ce niveau-là. Il y a eu juste, pendant le Covid, c'est un de nos historiens qui a reçu, sur son poste Facebook, des éléments de négationnistes, visiblement. Mais c'était simplement... C'est un fait vraiment isolé dans l'ensemble des différents projets qu'on a menés. On a mené plusieurs centaines de projets. Non, on n'a pas eu de problème à ce niveau-là. Et on a eu un soutien quasiment général de toutes les associations, les personnes, les municipalités pour ce projet-là. C'est un projet qui est, je trouve, consensuel. Et il y a eu très très peu de dégradations même de Stolperstein dans toute l'Europe. Quelques dizaines sur les 150 000 Stolperstein qui ont été posés dans 33 pays. Donc c'est véritablement un projet qui est consensuel et qui ne trouve pas de problème, disons, sur son chemin, quoi.
32 poses de Stolperstein dans le Bas-Rhin en 2025. Les projets à venir pour 2026.
Alors, projet à venir pour 2026. On a 38 Stolperstein qui vont être posés. Donc j'ai cité les différentes villes et communes où vont être posés ces Stolperstein. Et donc, on est en train de négocier avec les mairies, les services techniques et les familles, donc les dates de pose pour ces différentes communes. L'artiste Gunther Demling sera à Strasbourg et dans le Bas-Rhin lors de la dernière semaine d'avril. Et donc, il effectuera une pause sur Strasbourg et dans un des villages d'Alsace sur une journée. Donc, on planifiera cette intervention, cette participation de l'artiste lui-même donc sur une des cérémonies. Vous en serez bien entendu informé, donc on communiquera également à ce niveau-là. Donc, voilà.
Parfait. Bah, écoutez, on a fait le tour aujourd'hui. Quel est votre vœu pieux quant à ces pavés, qu'on passe dessus, qu'on ait une pensée pour la personne, qu'on imagine, qu'on fasse attention peut-être aussi à notre futur?
C'est l'objet même de cette l'idée de Günther Demling, c'est que ces pavés puissent interpeller le maximum de personnes. Et il est vrai qu'il y a pas mal de gens qui nous questionnent et qui nous demandent, qui viennent vers nous après avoir vu dans la ville un certain nombre de pavés qui ont été posés et qui nous posent un certain nombre de questions par le biais des réseaux sociaux, ou qui veulent même rejoindre l'association par ce biais-là et qui trouvent que le projet est un projet qui a du sens et qui donne sens également à cette quête de mémoire. Et voilà, on souhaite effectivement que ce projet se déploie de manière importante et qu'il puisse trouver une place dans toutes les commémorations mémorielles. Et il a déjà trouvé sa place, je trouve, pas seulement en France, mais en Europe. Voilà.
Richard Abouaf, merci beaucoup.
Merci à vous.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.